On dirait que Jésus, dans ce chapitre 11, s'est un peu levé de mauvais poil. Après tout, s'il a partagé notre humanité jusqu'au bout, hein, c'est des choses qui arrivent. Gare à celui qui va se trouver sur sa route. Ici, un pauvre figuier. Là, les marchands du temple et les disciples font silence, hein, profil bas, devant ces scènes successives, à part Pierre. Pierre qui, comme à son habitude, ne peut pas s'empêcher de la ramener. Un peu les pierres qui sont comme ça. Enfin, bon. Alors, je vous propose ce matin de chercher à comprendre le sens de cette histoire de malédiction de figuier. Parce que il y a bien évidemment un sens spirituel à cette affaire. Je ne sais pas vous, mais moi, spontanément, je m'identifie à ce figuier. On entend un peu inquiet que nous avons le devoir de porter des fruits. Porter de l'amour, de la justice, du pardon, de la joie aussi, de la paix dans nos vies, les fruits. Les fruits, c'est tout ce qui est produit dans notre existence de croyants, de femmes et d'hommes. C'est tout ce que nous donnons aux autres, au monde, à Dieu. Mais c'est aussi dans notre vie d'église. Un jour d'Assemblée générale, ça mérite d'être souligné. On va chercher à répondre à cette question aujourd'hui. Quel type de figuier pousse à Pessac? Un figuier à feuilles ou un figuier à figues? Mais la chose inquiétante dans ce récit, et cela ne vous aura pas échappé, c'est cette malédiction qui tombe sans sommation. Dans l'évangile de Luc, il y a un passage aussi parallèle avec un figuier. Au moins, le vigneron intercède auprès du propriétaire en demandant un délai. Laisse-le encore un an, je vais m'en occuper. Un figuier stérile à qui on donne une chance. Ici, rien. Un constat, un jugement. Pas de fruits, pas de vie. Et la foudre du ciel tombe sur l'arbre qui est séché du jour au lendemain. Et on peut en conclure que, toujours dans cette identification au figuier, hein, que si nos vies ne s'ouvrent pas aux autres, si elles se dessèchent, eh bien, elles restent centrées sur elles-mêmes. Ah, elles font des feuilles. Elles font des feuilles. C'est très confortable, les feuilles, parce que ça nous abrite du soleil, c'est pour le confort personnel. Elles cultivent l'image d'une vie abondante, vue de l'extérieur. Une vie abondante et belle. Mais, en réalité, sont vides de vie. Voilà un enseignement clair. Dur. Mais clair, portez du fruit, sinon vous allez sécher sur place. La seule chose qui fasse vraiment problème, ici, et on ne trouve cette chose que dans le récit de Marc, c'est ce petit détail, cette information en passant, mais finalement qu'on voit comme le nez au milieu de la figure. Vous avez remarqué ce petit détail qui fait vraiment problème? Allez.
C'est pas la saison
des figues. Merci. Merci Raphaël. C'est pas la saison des figues. Cette toute petite parole fait basculer d'un seul coup le lecteur dans un sentiment, une réaction immédiate, un sentiment d'injustice. Non ? Même. Cette petite phrase fait écran à tout le reste. Comment peut-on reprocher à un arbre fruitier de ne pas porter de fruits hors saison ? De qui se moque-t-on ? Alors oui, on fait des trucs sous serre aujourd'hui toute l'année, d'accord, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Si on garde à l'esprit que cette histoire de figuier est une image, une sorte de parabole en acte, alors le message devient très intéressant, très fort, très prophétique pour nous. Deux logiques sont opposées ici, deux lectures de la vie. Premièrement, on va dire la logique naturelle, celle du figuier qui ne donne des figues que lorsque c'est la saison, le bon moment pour lui d'en donner. Des fois, c'est deux fois par an, hein, les figues. Au Liban, en tout cas. Je sais pas. C'est Oulema qui est spécialiste, hein, je crois. Et puis, il y a l'autre logique. C'est la logique du Christ. Celle du royaume de Dieu, si vous préférez. C'est une logique surnaturelle qui demande que l'on porte du fruit, non pas quand ça nous arrange, ou quand c'est notre saison, mais quand l'autre, celui qui a faim, en a besoin. La logique naturelle est évidemment la plus répandue, c'est celle du moi d'abord. Je veux bien, et c'est déjà pas mal, je veux bien donner aux autres. Je veux bien rendre service, mais je décide du moment en fonction de mon agenda, de mes possibilités, disponibilité, tout ce que vous voulez. Je le fais quand ça m'arrange. La logique du Christ, qui n'est pas de ce monde, certes, mais à laquelle nous sommes quand même un peu invités, c'est de donner du fruit au moment opportun. Nous n'avons pas à fixer le moment du don. Le bon moment, c'est quand l'autre a besoin. Et si ce n'est pas le bon moment, c'est quand même le moment. En fait, il n'y a pas de moment où nous pouvons dire, comme chrétiens, qu'il n'y a rien à faire pour Dieu ou pour les autres. Tout moment est le sien. Et c'est toujours le moment de donner et de servir. Si nous nous limitons à porter du fruit, le dimanche matin, seulement, inévitablement, il va arriver qu'un lundi matin, une main se tende vers nous, hors église, hors assemblée générale, mais là, au beau milieu de notre vie. Un lundi, jour de congé pastoral, je glisse un peu l'information au passage. Et je sens que demain, ça va pas arrêter de sonner après cette prédication. Je donnerai bien un coup de main au ménage, à l'église, et à l'entretien des espaces extérieurs. Mais ces derniers temps, les semaines sont tellement chargées, sans parler de la fatigue. Ce que nous dit Marc n'a l'air de rien, avec sa petite phrase en passant. C'est que si l'on reste dans la logique du figuier, on ne fera jamais rien. Et tout ce qui peut nous arriver, c'est le dessèchement et la mort. Parce qu'il ne nous revient pas de fixer les temps et les moments. Les besoins s'en chargent à notre place. Alors on pourrait en rester là, la leçon est passée, elle est costaud, nous ébranle, je n'en doute pas. Mais cette histoire de figuier ne s'arrête pas à cet ultimatum à porter du fruit tout le temps. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce récit de figuier est encastré, enchâssé, dans une autre histoire. C'est celle de la visite de Jésus à Jérusalem et cette altercation avec les marchands du temple. Il doit bien exister un lien entre les deux affaires. Sinon, Marc ne les aurait pas comme ça imbriquées l'une dans l'autre, vous voyez ? Alors, on va tout de suite essayer d'éviter le contresens, les contresens. La colère de Jésus contre les marchands du temple n'interdit pas les vides-greniers ou les ventes paroissiales. Hein, on l'entend souvent dire « Ah, les marchands du temple !» Ben, ça n'a rien à voir, arrêtez. C'est hors sujet. Non, c'est après le système des sacrifices que Jésus en a. Les marchands vendaient des pigeons, toutes sortes d'animaux. Ils changeaient aussi de l'argent pour permettre aux fidèles d'obtenir le pardon de Dieu par les sacrifices. C'était ça, le boulot. On croyait que le pardon de Dieu pouvait se monnayer. Et Jésus s'inscrit là dans la tradition des prophètes, qui avaient avant lui prévenu, en des termes violents aussi, prêtres et fidèles. Je vous ai fait un petit assortiment. Regardez ça. Je n'ai que faire de vos sacrifices. Ésaïe 1. Je méprise vos fêtes et vos assemblées. Mais que la droiture chez vous soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6. Je n'ai que faire de vos sacrifices, oui, c'est ça. Et encore, c'est l'amour qui me plaît et non le sacrifice. Osée 6. En chassant les marchands du temple, Jésus dit exactement la même chose. Au lieu d'une religion d'amour et de prière, vous fabriquez une religion de négoce et d'achat de bonne conscience. Dieu n'a que faire de vos cultes, de vos actes religieux. Ils sont vides, illusoires. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous portiez des fruits d'amour. On est à nouveau dans la logique du figuier, stérile. Ah, à propos de feuilles de figuier, vous vous rappelez, hein, parce que donc Jésus a trouvé des feuilles sur ce figuier. Uniquement des feuilles. Et je pense que là, une petite note biblique serait intéressante. Courte, hein ? Regardez, la feuille, en hébreu, c'est ce qui monte, Allah. Alors pas Allah, Allah, c'est ce qui monte. Et le sacrifice, l'holocauste, c'est exactement la même racine qui veut dire littéralement ce qui monte vers Dieu, l'holocauste. Hola. Pour Jésus, ce figuier plein de feuilles inutiles, est l'image même de la religion, pleine de son élévation personnelle et illusoire, pleine de ses préoccupations autocentrées et incapable de sauver. Alors qu'elle devrait donner de l'amour à tous, elle se complaît dans l'auto-justification dans la bonne conscience à peu de frais. Un petit pigeon et l'affaire est réglée. Une autre question. Savez-vous où dans la Bible il est question de feuilles de figuier ? Il n'y a qu'un passage, en plus de celui de Marc. feuille de figuier. Oui ? On a le droit de répondre à côté. Hein. C'est ? Raphaël, non ? Rien. Si je vous dis Adam et Ève. Hein ? Eh oui ! Genèse 3:7, quand l'homme et la femme se cachent du regard de Dieu derrière des feuilles de figuier. Eh oui, ils cherchent à camoufler leur nudité derrière quelques jolies feuilles de figuier. En plus, c'est Cranach hein, qui fait ça, c'est magnifique. Comme le figuier de Marc 11, Adam et Ève font illusion. Mais en réalité, ils n'ont rien d'autre à offrir à Dieu que leur égoïsme. Et Dieu, au lieu de les punir lourdement, qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, il va leur fabriquer des vêtements de peau. Il va les couvrir de vêtements dignes, symbole du pardon de Dieu hein, qui nous recouvre. Le pardon de Dieu est la seule dignité dont nous pouvons être recouverts. La scène s'achève sur un entretien entre Jésus et les disciples. Ils sont tout étonnés de voir le figuier sécher jusqu'aux racines. Jésus leur répond « Ayez foi en Dieu ». Il ajoute « Si vous diriez à cette montagne d'aller se jeter dans la mer ?» Et cela arriverait. Autrement dit, vous auriez pu maudire à ma place ce figuier et il aurait séché sur place. Alors, je ne crois pas que Jésus soit en train de jouer au coach formateur de disciples super puissant dans la prière. Je ne crois pas que c'est le message de cet entretien. À bien y réfléchir, ça servirait à quoi de transporter des montagnes ? C'est même assez dangereux. Hein. Jésus nous parle évidemment d'autre chose. Il nous dit qu'avec un peu de foi en Dieu, nous serions capables de sécher sur place les figuiers stériles qui prospèrent en nous. Nous serions capables de chasser hors de nos vies ces montagnes d'égoïsme, d'individualisme, de bonne conscience. Tout ce qui ne donne pas d'amour, de joie et de paix autour de nous. Dehors. Avec un peu de foi. Dieu, lui, est comme un figuier qui donne du fruit en tout temps. Pour lui, le temps du pardon, le temps du salut, c'est maintenant. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Maintenant. Maintenant et encore demain. Et tout le temps. Et Jésus conclut l'entretien par cette promesse. Tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est la bonne nouvelle de ce passage. Dieu répond à nos prières. Mais pas n'importe quelle prière. Il donne quand on lui demande, mais pas n'importe quoi. Si nous lui demandons de faire disparaître de nos vies ce qui est violent, égoïste, ces montagnes d'indifférence aux souffrances des autres, il peut le faire, il va le faire. Ça peut prendre un peu de temps, mais le travail va commencer. Et une nouvelle personne va naître. Que dis-je ? Un superbe figuier qui donne des figues n'importe quand pour le plus grand bonheur de ceux qui s'en approchent. Amen.